Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. À suivre Eva Rock pour son zapping du lendemain spécial liberté d'expression et Bertrand Chameroy pour son écran de veille spécial compétition. Notre invité culture, le poète du piano, c'est le nom de son triple CD, c'est le pianiste Alexandre Tarot qui sera ici dans ce studio. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Et puis dans les indispensables, trois albums, trois styles différents avec Angèle Châtelier et un cow-boy dans le coton, vous allez comprendre, avec Mathieu Charrier. Enfin, vous allez comprendre quand Mathieu Charrier sera là. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Pour l'instant, on ne comprend rien. Merci d'être avec nous. Bonjour Bertrand Chameroy.
Bonjour Philippe.
C'est l'heure, je l'ai dit, de votre écran de veille. Bertrand, quelle émission a retenu votre attention hier ?
Mais j'ai regardé un programme qui va consoler celles et ceux qui sont tristes à l'idée de ne plus pouvoir partager de gueuletons avec leurs amis à domicile. Oh. L'émission qui vaccine définitivement de l'envie de recevoir des gens chez vous. Un dîner presque parfait. À ne pas confondre avec un dîner presque parfait. Ça, c'est tous les jours sur CNews. Alors, je rappelle le principe d'un dîner presque parfait. Des gens qui ne se connaissent pas s'invitent à dîner les uns chez les autres pour se faire pourrir dans leur dos car la bouffe était dégueulasse et l'ambiance nulle. Un programme feel good, quoi.
L'eau, je la bois que fraîche. Et là, j'ai vu qu'il l'avait sortie directement du robinet.
Je vous préviens, il faut que l'eau, elle soit fraîche. Sinon, je la bois pas.
Que l'eau, elle
soit fraîche.
Et je pète un câble si elle n'est pas fraîche.
D'accord, jusqu'ici, d'accord. Moi je pensais naïvement que les gens qui laissent des commentaires hyper pointilleux sur TripAdvisor n'existaient pas en vrai. Je pensais que c'était des robots, ouais. Mais si, ils sont réels et ils participent au dîner presque parfait. Mais alors attention, résumer un dîner presque parfait à ça, ce serait réducteur. Un dîner presque parfait, c'est aussi de l'émotion, beaucoup d'émotion. Dans le top 3 des choses qui donnent le plus envie de pleurer, il y a l'année 2020, l'ours de Jean-Jacques Hano et le plat préparé par Hervé, l'un des candidats.
C'est la première fois que je pleure en mangeant quelque chose.
Alors, je suis pas psychologue, mais pleurer pour une verrine de saumon, c'est un début de dépression nerveuse. Hein, allez, on respire un grand coup, ça va bien se passer dans 2 mois, on passe en 2021. Un dîner presque parfait qui aurait pu s'appeler un dîner presque pas joué. Écoutez comme les candidats sont spontanés, on se croirait dans une sitcom AB.
Bonjour, bienvenue dans le lieu où je vais refaire mon repas ce soir. C'est un lieu un peu particulier, c'est un restaurant, mais je vous en dis pas plus.
Et c'est vrai qu'un restaurant pour cuisiner, c'est assez particulier. C'est pas courant, quoi. Ouais. Alors, à la question, est-ce une bonne idée de tourner les interviews des candidats dans les toilettes ? La réponse est évidemment non. Parce que, un, ça résonne beaucoup, et que, deux, comme le candidat explique grosso modo que s'il le pouvait, il irait plus loin avec la candidate, ça donne un résultat très étrange, on dirait un témoignage de faites entrer l'accusé avec la voix trafiquée.
C'est miracle, la première, déjà très jolie, donc super, super content. Hein. J'ai beau être mariée, j'aime bien les femmes, donc souriante, là déjà, elle m'a plu tout de suite.
C'est pas truqué, c'est le son
ça,
d'origine,
c'est
je vous le jure.
Mais c'est pas un dîner presque parfait.
Et il est dans les toilettes, oui, il manque Dominique Rizet. Hein. Ouais. Il a cru qu'il participait au bachelor, enfin lui c'est plutôt le bachelour. Écoutez, il en remet une couche à l'arrivée de l'autre candidate.
Morgane est arrivée, assez jolie aussi.
Voilà.
J'ai de bonnes sensations en la voyant. Il réussit l'exploit d'être encore plus lourd que le gratin dauphinois qu'il a préparé avec 1 litre de crème et 100 grammes de beurre. Fallait le faire. Mais mon moment préféré dans un dîner presque parfait, c'est lorsque les candidats décryptent les menus des autres et tentent de deviner ce qui se cache derrière ces mystérieux intitulés de plats. Bon, clairement, niveau enquête, certains partent avec des bases plus solides que d'autres.
Marguerite se baigne entourée de dauphins gratinés. Marguerite, c'est une vache.
Attends, c'est quoi déjà la vache ? C'est quoi ? C'est du porc ?
Oh non.
La vache, c'est du porc. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus, on fera pas mieux aujourd'hui. Rideau.
Ah, merci Bertrand. Eva, oui. Le menu du jour, on regarde l'avenir.
Oui, on regarde l'avenir. Et
le thème.
Et c'est un jour particulier, Philippe, puisque dans quelques heures, un hommage national sera rendu à Samuel Paty. Le professeur d'histoire s'était donné une mission, apprendre à ses élèves à exercer leur esprit critique, à comprendre le sens des mots, censure, obscurantisme, mais aussi liberté, liberté d'expression. Et Samuel Paty aurait sans doute apprécié les programmes du soir, peut-être aurait-il même conseillé à ses élèves de regarder Arte et ce documentaire sur Oscar Wilde, auteur notamment du portrait de Dorian Gray. Un récit dans lequel l'écrivain britannique évoque l'homosexualité. Nous sommes à la fin du 19e et dans cette société conservatrice, le plaisir s'oppose à la vertu. Oscar Wilde, lui, est mis au pilori.
Des caricatures, mais des vraies caricatures de journaux ont montré Wilde d'une manière
effroyablement agressive et méprisante.
Il
y a eu des centaines d'articles de presse disant qu'il eût mieux valu ne pas écrire ce livre. Mr. Wilde a de l'esprit et du style, mais s'il ne sait écrire que pour des nobles dépravés et des coursiers pervertis, disait l'une des critiques, il ferait mieux de se reconvertir dans le métier de tailleur.
Des caricatures obscènes, choquantes, mais qui ne feront pas plier Oscar Wilde. Il va lutter pour sa liberté et le paiera, comme vous le découvrirez dans ce documentaire remarquable. La liberté de penser, valeur absolue aux États-Unis, valeur bafouée aussi dès qu'il est question de politique. Histoire TV propose un documentaire en 4 épisodes sur la fracture américaine. Comment d'Obama à Trump, la société s'est divisée. Et on découvre notamment l'émergence en 2008 de la républicaine Sarah Palin. Steve Smith, conseiller de John McCain, lui a soufflé le nom de Sarah Palin et il revient sur cet épisode.
Je vais être un peu grossier, mais c'était une menteuse compulsive. Elle disait des choses qui n'étaient tout simplement pas vraies ou des choses qu'elle reprenait sur Internet. Cet effacement des faits au profit de la fiction et de la vérité au profit du mensonge est devenu l'une des caractéristiques de la politique américaine. Ça a commencé à cette époque.
Sarah Palin qui ouvre donc la voie à Donald Trump. C'est elle aussi qui use des fake news dont vont s'emparer le site d'information Breitbart.
Ils sont la voix de l'indignation populiste déclenchée par Sarah Palin. En répandant des histoires qui alimentent la peur et la division, comme les meurtres de Noirs par d'autres Noirs, le terrorisme islamique, la violence des immigrés, une culture menacée.
Les racailles hispaniques et noirs s'en prennent aux Asiatiques qui réussissent aussi bien que les Blancs.
Les Noirs sont incapables d'être responsables d'eux-mêmes.
Prenez les armes et soyez prêts à faire feu.
Voilà, Samuel Paty aurait sans doute trouvé les mots pour décrire cette vie politique américaine, pour expliquer à ses élèves la dichotomie républicain-démocrate, comme nos professeurs l'ont fait avant lui. Peut-être aurait-il aimé aussi parler de l'Afghanistan, des talibans qui ont enfoncé le pays dans l'obscurantisme, comme le raconte un magnifique film d'animation à voir sur OCS, Parvana, du nom de son héroïne, une petite fille admirative de son père.
Dans ma jeunesse, Parvana, j'ai connu la paix qui régnait dans cette ville. Tout change toujours. Les histoires sont là pour nous le rappeler. Parvana, est-ce que tu m'as écouté?
Oui, papa.
Elle devrait être à la maison.
Et elle devrait se couvrir convenablement.
Et toi, tu devrais arrêter de la regarder.
Je pourrais te faire exécuter!
Quand le père est enlevé par les intégristes, la petite fille se grime en garçon parce qu'être un garçon en Afghanistan, c'est toucher du bout des doigts, mais simplement du bout des doigts, la liberté. Je vous rappelle qu'un hommage national sera rendu à Samuel Paty ce soir, hommage diffusé sur toutes les chaînes de télé. Et je récapitule, Dorian Gray, un portrait d'Oscar Wilde, c'est sur Arte à 22h30, La fracture américaine sur Histoire TV à 20h40 et Parvana sur OCS à 20h40, un film d'animation coproduit par Angelina Jolie.
Merci beaucoup Eva Rock, merci beaucoup Bertrand Chameroy. À demain tous les deux. Dans un instant, on retrouve notre invité Alexandre Tarot, mais d'abord musique, quoique Tarot sera de la musique aussi, c'est Sia.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Alexandre Tarot.
Bonjour.
Vous êtes pianiste, virtuose, même si je sais que vous n'aimez pas ce genre ni ce qualificatif. Vous avez joué, vous jouez encore dans le monde entier. C'est assez rare pour te signaler, votre répertoire va du baroque jusqu'à la chanson française, que vous avez même fait des titres avec Vanessa Paradis ou Dominique A. On vous a également vu dans le film Amour d'Anneke, où vous incarniez le pianiste prénommé Alexandre. Ça se goupillait bien. Actualité, vous apprêtez à sortir un triple album hors norme. Ça s'appelle Le Poète du Piano, c'est chez Erato. Ça sort vendredi après-demain. C'est quoi l'idée de cet album? Et d'abord, pourquoi cette appellation qui ressemble plutôt à un titre d'article de presse, Le Poète du Piano?
C'est un peu ça, hein. C'est ouais. Un titre. C'est très... On appelait ça dans les années 80-90 un best-of, hein, ouais. Avec beaucoup d'extraits d'anciens disques, mais aussi des nouveautés, des inédits, des choses que j'avais enregistrées pour certains disques qu'on n'avait pas gardés au final. Et il faut donner un titre à ce triple album. Alors, je trouve que Le Poète du Piano, c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais je trouve que c'est pas, pourquoi pas si mal. C'est plutôt poétique.
Ah oui, c'est
on
poétique.
Aurait pu tomber plus mal.
Triple CD, pourquoi?
Alors, pour mettre beaucoup de choses dedans. Et ma maison de disques, Erato, Warner Classics, m'a proposé de faire moi-même le choix des pièces. Donc j'ai écouté toute ma discographie sur mon sofa pendant le confinement, j'avais que ça à faire. Et donc j'ai tout écouté tranquillement, avec de la distance. Et j'ai voulu faire 3 disques différents. Le premier s'appelle Solo, donc avec que des pièces pour piano seul. Le deuxième, Concerto. les concertos avec orchestre. Et le troisième, j'ai appelé ça rareté et surprise, avec donc plein d'inédits, des choses assez surprenantes, justement, comme une chanson qu'on avait fait un soir avec Dominique A, une chanson de Barbara, je crois à minuit, juste pour s'amuser. On ne pensait pas que ça sortirait un jour. Voilà, des petites choses comme ça qui ne seraient pas sorties si je n'avais pas fait ce best-of.
Ou même du Ennio Morricone. Alors, l'album va sortir après-demain, mais une dizaine de titres sur 63 sont déjà disponibles. Alors, pour faire entendre votre jeu, votre style, votre poésie, je me suis demandé s'il valait mieux jouer la marche turque de Mozart ou une gymnopédie de Satie. J'ai navigué entre l'un et l'autre et je me suis dit, en fait, je lui ai demandé, le mieux c'est de vous poser la question, préférez qu'on entende quoi ? Marche turque ou gymnopédie, Mozart ou Satie ?
La marche turque, on a besoin de se donner un peu d'énergie le matin.
Pardon de parler sur votre jeu de piano, c'est assez rare pour être signalé. Contrairement à la plupart de vos confrères, vous dites adorer enregistrer. Vous avez fait combien d'albums ?
J'en ai fait 54, mais les 10 premiers sont passés totalement inaperçus, c'était il y a 30 ans.
Ouais.
Voilà. Ouais, j'adore être enfermé à double tour comme ça pendant une semaine, loin du monde, et se retrouver face à face avec un compositeur, une œuvre, un piano aussi, une acoustique. Ce sont des moments très 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 intenses.
Et ça se passe comment pour vous ?
Comme une vie tout entière, mais en quelques jours. Des pleurs, des joies.
Vous racontez ça dans le texte de présentation, dans le livret de l'album. Vous dites qu'il vous arrive de pleurer ou de hurler pendant un enregistrement, vraiment ?
Ouais, pour mon équipe d'enregistrement, c'est pas drôle.
Non mais vraiment, vous pleurez ?
Ah oui, je veux m'arrêter, je repars chez moi pendant deux heures, ensuite je reviens.
Vous êtes fâché ?
Tout.
Et vous hurlez vraiment ?
Mais je suis pas comme ça dans la rue, dans la vie, pardon, je vous rassure. Mais ouais, les enregistrements, c'est dur parce que vous voulez faire une version de référence dans l'idéal, vous voulez donner le meilleur de vous-même, et vous imaginez par exemple cette marche turque qu'on vient d'entendre, si vous la jouez 50 fois, au bout de 50 fois, même au bout de 5 fois, vous n'avez plus envie de la jouer, vous n'avez plus... Si vous dites un texte, vous prenez un texte comme ça, un poème, vous le dites une fois, deux fois, trois fois, après, il n'a plus de saveur.
J'ai bien compris, mais c'est vous qui vous ratez, ou c'est vous qui êtes tellement ambitieux, mécontent de vous-même, perfectionniste, que vous trouvez que ça ne va pas, non, alors que votre équipe trouve que ça va bien.
Non, c'est moi qui me rate, et mon équipe ne trouve pas que ce soit forcément bien. Vous savez, c'est un peu comme au cinéma, il y a une prise magique, il y a des bonnes prises et des mauvaises prises, ça passe ou ça ne passe pas.
Ouais.
À l'enregistrement, devant des micros, vous êtes tout seul, si vous enregistrez tout seul, et ça ne passe pas, ça ne passe pas, ça ne passe pas, et puis tout d'un coup, il y a une prise extraordinaire, ça vient d'ailleurs, vous voyez, ça vient du ventre, comme ça sort naturellement. Et c'est ça que j'aime dans l'exercice de l'enregistrement.
Et vous écrivez aussi, mes disques m'ont servi à m'éloigner d'Alexandre, dont je n'ai que faire. Alors Alexandre, c'est vous. Donc d'abord, vous parlez de vous à la troisième personne comme Alain Delon, mais en plus, vous en parlez comme d'un autre, c'est une autre personne, Alexandre, c'est pas vous.
Enfin, vous dites pas la fin de la phrase, ce que je dis, c'est que ce qui m'intéresse, c'est ce que je ne connais pas encore de moi.
Ouais.
C'est ça, ce qui m'intéresse dans l'enregistrement, c'est justement quand on arrive à sortir quelque chose qui vient du fond de soi-même, ou peut-être même avant sa naissance, on se dit, mais voilà, je me rapproche de moi, je vais à ma rencontre.
Et vous savez quoi ? Ce qu'on ne connaît pas encore de vous, c'est justement l'ambition d'Hélène Manarino qui arrive. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie du pianiste Alexandre Tarot, qui me disait juste avant cette pause que ce qui l'intéressait, c'est les choses qu'il ne connaissait pas de lui. Cette rencontre ne pouvait pas mieux tomber. Je vous présente Hélène Manarino. Bonjour Hélène.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous, bonjour Alexandre Tarot. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Quand vous étiez petit, vous avez déclaré « Jamais ». Je ne serai concertiste, mais je serai compositeur. Alors composons avec ces petites choses inédites et on commence par celle qui vous colle à la peau.
Pourtant, j'étais au rendez-vous 25 rue de la Grange au Loup. Mais il ne m'a jamais revu. Il avait déjà disparu.
bien oui, la chanteuse Barbara. Alors d'ailleurs, on ne peut rien vous acheter la concernant, puisque vous avez déjà tout. C'est votre idole. Vous aviez d'ailleurs acheté une place pour tous ses concerts au Châtelet à Paris. Elle enchaînait plusieurs jours et vous vouliez être là. La place qui était la vôtre, elle était au deuxième balcon du théâtre. Barbara n'a pas pu finir tous ses concerts. Quelques temps plus tard, c'était vous sur la scène du Châtelet. Vous êtes arrivé sur scène, vous vous êtes mis devant votre piano et vous avez votre regard qui était porté justement sur cette place, au deuxième balcon. Une façon qu'elle soit un petit peu avec vous aussi.
Oh, c'est vrai. Vous aviez acheté un billet par soir ?
Au Châtelet, il y a eu le Châtelet 87, ensuite le Châtelet 93, mais c'est vrai que pendant la série au Châtelet 93, j'avais acheté des places pour tous les soirs, et elle avait annulé les trois dernières semaines.
Exactement.
Donc, au guichet, on m'avait remboursé des sommes incroyables.
Alexandre Tarot, la musique, oui, mais aussi la danse. Vous faisiez beaucoup de danse à l'âge de 10, 11 ans. Vous faisiez des concours, vous savez, de tours pour faire tourner une de vos amies sur elle-même, ce qu'on fait souvent. Et aujourd'hui.
En fin de soirée.
Non, bah non, pas du tout. Et aujourd'hui, vous êtes un grand danseur capable de danser jusqu'au bout de la nuit. Et attention, c'est vous parfois qui organisez des soirées. Et vous aimez aussi écouter ça parfois.
Un conseil d'être heureux semble sortir des choses.
Une voix aussi.
C'est qui ?
Une autre Barbara.
Une autre Barbara.
Ouais.
Barbara Streisand.
Qui chante du Debussy.
Exactement. Alexandre Tarot, profitez, vivre, rassembler. Oui, il y a d'autres choses qui vous composent. Le sucre, par exemple. Eh oui, ça peut être maladif.
Vous avez appelé qui ?
Elle ne répond jamais.
Quand vous sortez de scène, tout le monde se jette sur de l'eau ou une bière. Non, vous commandez deux desserts, celui du jour,
minimum.
Parfois.
Minimum,
c'est vrai.
Et une crème brûlée, souvent. D'ailleurs, tout cela a donné naissance à une passion cuisine pendant le confinement. Et la première recette que vous avez réalisée pour vos invités, c'était un moelleux au pamplemousse. C'est mignon.
C'était pendant le confinement.
Ouais. Ouais.
J'ai jamais cuisiné de ma vie et pendant le confinement, comme beaucoup de gens, j'ai laissé place à des désirs enfouis et j'ai commencé à faire de la cuisine, notamment des fondants au pamplemousse.
Pas mal, composé donc d'une grande générosité. Vous avez aussi besoin de calme, yoga, méditation, silence. Très important, surtout quand vous dormez, bon, comme tout le monde.
Oui.
Mais quand vous êtes à l'hôtel et qu'il y a du bruit, la seule chose qui vous calme, c'est de vous dire que chez vous, vous avez installé une isolation. Donc ça vous sécurise, justement, de vous dire que vous allez retrouver votre lit bientôt. Alors vous vous baladez tout le temps aussi avec du scotch pour boucher les aérations des trains,
non,
des hôtels. Eh oui! Vous avez horreur de la clim.
C'est vrai ?
J'ai horreur de la clim.
Vous avez du scotch avec vous pour le TGV ?
Je me demande qui vous a. Qui
non, mais c'est pas la question. La question,
ouais, c'est. Ouais, c'est vrai. Ouais,
je me suis toujours demandé, moi, ça m'énerve.
Alors,
dans le
on
n'a
pas le droit de mettre du scotch. Je me trimballe toujours avec du scotch. Vous savez, le gros scotch,
le
qui fait à peu près 4, 5.
On appelle ça du gaffeur dans le métier.
Oui, mais le transparent, ouais. Ça se voit moins pour le contrôleur.
Ah, vous êtes malin.
Vous le mettez comme ça sur la. C'est exactement la largeur de.
Voilà,
c'est un
le
truc
bon plan
que je donne,
ouais,
qui n'est pas tout à fait légal,
c'est
mais que
interdit.
Je donne aux gens qui tombent malades.
C'est interdit,
non,
mais c'est
sur,
génial.
Sur 30 cm, ça va.
Alors Alexandre Tarot, votre rythme est très soutenu en ce qui concerne la piscine aussi, vous en faites souvent, mais surtout vous êtes un ami fidèle, présent, vous êtes capable d'être au téléphone avec un de vos meilleurs amis 4 minutes avant de monter sur scène. Oui, vous ne jouez jamais sans partition, alors celle de votre vie est en tout cas toute tracée, un succès mondial, un public fidèle et cette composition-là ne s'arrête pas.
Merci beaucoup Hélène. Vous êtes reconnue dans ce portrait Alexandre Tarot.
Oui, hein,
vous êtes toujours au moelleux au pamplemousse ou vous êtes non, passé une autre recette?
J'ai fait l'application Marmiton.
Ouais.
Je suis allé sur Marmiton et puis j'ai commencé par des recettes faciles.
Ouais.
Et là maintenant vous êtes à quel niveau?
Ben, un peu plus haut quand même, ouais, au bout de 8 mois.
Vous savez comment, j'y pense à l'instant, vous savez comment les grands pros appellent la cuisinière sur laquelle ils cuisinent?
Un piano de cuisine.
Et voilà,
c'est
un piano.
Beau.
Oh là là, incroyable,
tout
non
incroyable.
Mais tout s'explique. Merci Hélène Manarino.
À demain.
Restez avec nous, on revient dans un instant avec notre première indispensable, c'est Angèle Châtelier qui va nous faire une petite session de rattrapage des dernières sorties d'albums. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
En compagnie du pianiste Alexandre Tarot, qui sort un triple album, ça sort après-demain, vendredi, Le Poète du Piano, c'est chez Erato. Il y a déjà quelques titres qui sont disponibles sur les plateformes. Je l'ai dit, est-ce que l'album va sortir en vinyle ?
Non. Quelques uns de mes albums sont sortis en vinyle et j'adorais ça, mais celui-là c'est un peu compliqué parce qu'il y a 3 disques, vous voyez. Puis
ben moi j'achetais des triple albums quand j'étais minot.
Mais un vinyle ça ne fait que 42-43 minutes, ouais. Alors que là vous prenez le premier de ces 3 CD, il fait déjà 83 minutes. Il faut stipuler que c'est l'un des premiers CD qui dépasse 80 minutes de musique.
Vous dites avoir une fascination pour les albums en vinyle et que ça remonte à vos 5 ans.
Bah oui, parce que quand j'étais petit, je voyais ces grands albums. C'est toujours merveilleux, hein, ça ouais. Fascine, plutôt que les petits CD.
Et pour le son, parce que le son, c'est votre métier. Vous écoutez des vinyles, vous écoutez des CD.
J'ai pas de plateforme, donc
de platine.
De platine, pardon. Ouais. Donc je peux pas écouter. Je sors des LP, mais je peux même pas les écouter. Mais ce que j'aime dans les LP, c'est la pochette. Je trouve ça magnifique, le carton et puis le disque en lui-même, qui est fragile comme un petit bébé qu'on a peur de faire tomber.
Mais vous connaissez des vrais amateurs de disques complètement dingues, complètement fondus. Ils ne les écoutent jamais.
Ah bon?
De la même manière que les grands collectionneurs de voitures, ils ne les sortent jamais parce que sinon ils les abîment.
C'est ça.
Donc ils ont des voitures au garage, comme il y a des gens qui ont des CD qu'ils n'écoutent jamais.
Ah ouais, bon.
Et donc ça semble être votre cas. Si vous n'avez pas la platine de fête. Il y a des vinyles aujourd'hui, Angèle Châtelier, ou pas?
Oui, bonjour. Bah oui, mais moi aussi, ça me sert souvent de déco, d'ailleurs. C'est vrai.
On va parler de musique avec vous, Angèle. Les albums continuent à sortir, et heureusement, malgré le couvre-feu, malgré le semi-confinement, 3 albums dont vous vouliez nous parler, Angèle.
Oui, c'est ça. A commencé par un album qui était très attendu, ouais. Celui du musicien et vidéaste Woodkid, 7 ans après le triomphe de son premier, The Golden Age, 800 000 exemplaires vendus. You don't have to hide away, yeah. You'll be a mad boy. But for now, it's time to run, it's time to run. Woodkid revient avec S16, 12 titres prestigieux, renversants, grandiloquents aussi, mêlant les cordes aux bruits métalliques, les percussions puissantes et la voix si ronde et éloquente de Woodkid. A sustained heart pain and a dark fever. How did I get fooled by such a savage curse? The more I forgive you, the more it backfires. Now you're dancing through the smoke like nothing else matters. Where are you going, boy? Where did you get so lost? Could you be so blind? How could you be so blind? S16 est un disque complexe, cinématographique, vous l'entendez, où Woodkid se réconcilie avec lui-même. Il lui aura donc fallu 7 ans.
Et ça valait le coup, je plus sois, j'adore ce disque. Dans les autres grosses sorties très attendues qu'on a entendues, on en a parlé ici, Francis Cabrel évidemment.
Francis Cabrel évidemment et son 14e album, À l'aube revenant, un album inspiré par les troubadours, les rockers du Moyen-Âge, dit-il.
La fille à la fenêtre qui chante les yeux clos cherche à se reconnaître. Dans chacun de vos mots, ça vaut bien davantage que le plus lourd bijou, rockstar del medio d'age, senda valendez-vous.
Il chante en quelle langue, là?
Il chante en occitan. Cet album est aussi une ode aux langues régionales et il est terriblement doux et apaisant, un peu angoissant aussi, puisque Francis Cabrel évoque ces fameux rockers du Moyen-Âge avec beaucoup de sympathie, mais aussi l'actualité, hein, qui est loin d'être toujours rose.
Je ne peux pas parler pendant 12 chansons de juste de mes sentiments et de chanter des chansons d'amour. Donc là, j'ai raconté dans 2 ou 3 chansons, effectivement, ce que je voyais tous les jours, ce que j'entendais.
J'ai vu l'homme passer armé comme à la guerre. Mourir, c'est son projet. Il va falloir s'y faire.
Je ne dis jamais trop ce que j'en pense, mais je mets le sujet sur la table, comme ça, ça fait un motif de réflexion.
Nos déjeuners aux particules fines dans les fumées de l'Inde ou de la Chine.
Un album engagé, donc, on l'entend, notamment contre le réchauffement climatique, l'environnement. Merci Angèle. Et vous vouliez mettre en avant un autre artiste moins connu qui a sorti un album qui vous a séduit.
Oui Philippe, j'espère vous faire plaisir. Je sais que vous aimez bien ce genre de musique. Et quant à vous qui nous écoutez, si vous en avez la possibilité, installez-vous en chaussettes, enveloppez-vous d'un plaid moelleux et laissez-vous divaguer avec l'américain aux cheveux longs et à la guitare sèche, Kevin Morby.
They'd ask, oh, Jesse, then I got to feeling proud to
a campfire inside her soul.
Kevin Morby et son nouvel album Sundowner, un disque parfait pour la rêverie et l'oisiveté.
Je comprends pourquoi vous parliez de chaussettes, même quand il tape du pied dans le studio, on l'entend pas. Alexandre Tarot, est-ce qu'il y a un album qui vous a plu?
Bah les trois, enfin, j'ai pas entendu tous les albums là, mais je trouve que c'est trois voix incroyables.
Incroyable.
On peut être happé par une voix, c'est, la relation à une voix est quelque chose de très très intime. Mm. Vous pouvez être là dans une salle de concert, vous entendez ce dernier artiste,
Kevin Morby,
qui est jeune, votre voisin va peut-être détester, puis vous allez pleurer ou le contraire. Et je trouve ça, et ça, là, on vient d'entendre trois artistes incroyables qui ont une voix unique qui ne ressemble à personne.
Et si je puis me permettre, musicalement, c'est une composition d'une extrême complexité. On pense à Debussy, plein d'autres choses. Je parle de Woodkid, mais sa voix a progressé en plus. Qu'est-ce qu'on écoute, Angèle ?
Eh bien, on va écouter Kevin Morby, un morceau issu de son nouvel album Sundowner. Alors prenez vos plaids, si vous pouvez, servez-vous une boisson chaude et on écoute Valley sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
In the valley below me, in the valley below, they all pretend not to know me. They all act like they don't know. In the sky above me, in the sky above, Mama, all the stars are broken. For either me or you or us. In the valley below me, in the valley below, pretend not to know us. They all act like they don't know. In the sky above me, in the sky above, Mama, all the stars are broken. For either me or you or us.
Belle cette atmosphère. Valley, c'était Kevin Morby sur Europe 1. Dans un instant, on revient avec notre deuxième indispensable, Mathieu Charrier, qui a rangé sa chambre et qui est venu avec des nouvelles BD. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie du pianiste Alexandre Tarot, on reste dans la thématique album. On a parlé des albums, des CD qui sortent. Et là, cette fois-ci, avec vous, Mathieu Charrier, bonjour.
Bonjour à tous.
Ce sont les albums de BD, de bande dessinée de la semaine. On commence par le nouvel album illustré. C'est pas tout à fait une BD d'Astérix, dont vous nous parliez la semaine dernière.
Et qui sort enfin aujourd'hui. Effectivement, c'est un album illustré. Donc vous voyez, il y a du texte et des dialogues qui étaient écrits par Goscinny et des dessins du Derzo qui ont été recolorisés. Tout ça a été retravaillé parce qu'initialement, ce bouquin, il était sorti en 67, accompagné d'un vinyle. Là, c'est un livre avec, vous regardez sur la dernière page, un QR code, vous savez, que vous pouvez flasher avec votre smartphone. Ouais. Et ensuite, vous pouvez écouter l'histoire qui est jouée et racontée par des acteurs. Ça dure un peu plus d'une trentaine de minutes. L'histoire, en deux mots, c'est celle d'Assurance Tourix qui a décidé de se présenter au concours de chant du meilleur bar de Gaulois et qui va être accompagné par Astérix Obélix. Voilà, c'est surtout l'occasion pour nous de découvrir une histoire inédite du duo Derzo-Goscinny. Vous voyez ce qui se profile à l'horizon, Philippe, les certaines fêtes de Noël, là, vous savez quoi offrir.
Exactement.
Et puis, il faut préciser aussi que c'est le premier Astérix à paraître depuis la disparition du Derzo, donc c'est assez émouvant de retrouver comme ça son trait et son dessin.
Et je montre les planches sur europe1.fr et on voit la tête d'Alexandre Tarot quand il n'aime pas une version en studio. Vous nous avez aussi apporté le dernier Lucky Luke, Mathieu.
Oui, un cow-boy dans le coton, c'est le titre, et regardez bien sur la une, à côté de Lucky Luke, vous avez un homme noir. Eh bien, figurez-vous que c'est la première fois qu'il y a un héros noir dans Lucky Luke en plus de 70 ans d'histoire. En fait, notre cow-boy doit se rendre en Louisiane car il a hérité de la part d'une admiratrice d'une plantation de coton. En route donc avec Jolly Jumper, une fois arrivé sur place, il est accueilli par ses voisins, des planteurs blancs, bien décidés à faire en sorte que l'exploitation des ouvriers agricoles noirs continue. Sauf qu'évidemment, Lucky Luke, il n'entend pas de cette oreille. Il décide, lui, de redistribuer sa plantation aux noirs qui y travaillent. Début d'un conflit avec ses voisins. Heureusement, Lucky Luke va pouvoir compter sur l'aide de Bass Reeves, qui est donc ce marshal noir que l'on retrouve en couverture et qui existait dans la vraie vie. C'est Jules qui signe une nouvelle fois le scénario de ce Lucky Luke.
On n'allait pas faire le grand sauveur qui allait tout d'un coup abolir les questions de race, de ségrégation. Ça aurait été un peu trop artificiel et ridicule. C'est pour ça qu'on est allé chercher dans l'histoire un personnage totalement mythique, adulé à l'époque du Far West, qui s'appelle Bass Reeves, le premier grand marshal noir. Il a réellement existé. Il a arrêté à travers sa carrière plus de 3000 malfaiteurs. Et c'était un peu un grand précurseur de Lucky Luke. Lui, il tirait quasiment plus vite que son ombre des deux mains. On a des images, des photographies de l'époque. Et évidemment, comme souvent, il a été gommé de la grande légende de Hollywood.
Et voilà, effectivement, vous montrez à la caméra, il y a une photo de Bass Reeves à la fin de l'album. Donc c'est un Lucky Luke ultra ancré dans l'actualité, en pleine période Black Lives Matter, même si les auteurs travaillent dessus depuis 4 ans. Et pour une fois, figurez-vous que les Dalton vont aider en quelque sorte Lucky Luke, je vous en dis pas plus. Un cow-boy dans le coton, ça sort après-demain.
Et puis Mathieu, deux autres conseils BD pour terminer.
D'abord, Visa Transit, tome 2. L'année dernière, je vous parlais du premier tome de cette BD de Nicolas de Crécy, qui commençait en 86 avec deux cousins, Nicolas, qui est donc l'auteur, et Guy, qui décidaient de traverser l'Europe jusqu'à la Turquie avec une vieille Citroën Visa qu'ils avaient retapée. Ils traversaient dans le premier tome l'Italie, la Bulgarie, la Yougoslavie, et là, les voilà en route entre la Biélorussie et l'Istanbul. C'est aussi l'occasion une nouvelle fois d'une réflexion autour de l'intime, de la mémoire, et toujours magnifiquement servi, moi c'est l'un de mes dessinateurs préférés, par Nicolas de Crécy. Donc voilà, c'est Visa Transit, tome 2, c'est chez Gallimard. Et puis je voulais aussi vous parler de La Bête, qui se base sur l'histoire, vous savez, du marsupilami de Franquin, que l'on connaît tous, on a grandi avec.
Non, me dites pas qu'il existe en vrai.
Non, il n'a pas existé en vrai, mais regardez, ça c'est lui qu'on voit en une. Parce que les deux auteurs, Franck P. au dessin, Zidro au scénario, ont réinventé cette figure pour dénoncer notamment la maltraitance animale. Donc l'histoire, elle commence à Bruxelles au début des années 50, avec le marsupilami capturé par des trafiquants d'animaux. Il va être sauvé par un jeune garçon qui s'appelle François. Et si le marsupilami de Franquin, avec sa super queue et ses ouba-ouba, nous faisait rire, celui de Zidrou, je peux vous dire, il nous émeut avec ce corps complètement décharné. Zidrou qui explique qu'il s'est même inspiré de l'histoire d'Iti. Donc évidemment, c'est plus à destination des adultes que des enfants. Mais si vous avez grandi avec le marsupilami, il faut lire La Bête, ça s'appelle. C'est publié chez Dupuis.
Merci beaucoup, Mathieu Charrier. Vous êtes fan de BD, Alexandre Tarot, ou pas du
tout ?
Non,
pas beaucoup.
Voilà, pas beaucoup. Ça veut dire non, mais comme vous êtes poli et que vous êtes ici,
fan,
vous dites pas beaucoup. Ouais. Ce qu'on appelle une litote. Et non, juste un mot en parlant d'enfance, que vous parlez d'enfance. Il y a un album que je voulais entendre, mais que j'ai pas réussi à trouver, Alexandre Tarot. Ça s'appelle J'apprends le piano avec Alexandre Tarot. C'est quoi ? C'est une méthode rose ? C'est quoi ?
C'était ma maison de disques qui avait voulu faire, pareil, une sorte de best-of, mais avec plein de pianistes différents.
Ah mince !
Des pièces très courtes à destination des enfants. Et il m'avait demandé d'écrire un petit texte sur chaque pièce, des conseils pour jouer ces pièces, qui étaient donc des pièces assez faciles.
D'accord. Donc, ouais.
Et d'ailleurs, un auteur de BD, alors je ne me souviens plus de son nom, avait illustré, mais je ne m'étais pas reconnu, je trouvais. Que,
c'est pour ça qu'il n'aime pas la BD.
Alexandre Tarot était un peu un grand front et un corps bizarre.
Voilà. Et voici pourquoi vous avez oublié son nom. Vous connaissez le proverbe sur la vengeance. Vous restez avec nous, Alexandre Tarot. Il nous écoute à tous les coups, mais on ne dit pas son nom. Culture Média revient tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
En compagnie d'Alexandre Tarot, le pianiste, le poète du piano, c'est le titre de son triple album chez Erato qui sort après-demain. Il y a des découvertes dans cet album. On a entendu la marche turque, on parlait de Satie tout à l'heure. Il y a une découverte, par exemple, ce titre que tout le monde connaît, que moi je connaissais, mais dont personne ne connaît. Moi je connaissais ni le titre, ni le nom de l'auteur. Sans regarder sur Google, vous connaissez le nom de l'auteur ?
Ben, je viens d'enregistrer cette pièce, donc je la connais.
Mais il s'appelle comment ?
Khatchaturian.
Exactement. Ouais. Et pourquoi tout le monde connaît aussi ce titre ? À cause de cela.
Charlotte.
Changer le tempo, mais il a gardé la tonalité.
Mais la même tonalité, c'est beau, c'est mes 15 ans, ça, Charlotte, Charlotte Forever, cet album.
Vraiment, ah, et c'est pour ça que vous avez joué cette pièce au piano, en hommage à Gainsbourg
avant. Non, pas en hommage à Gainsbourg, en hommage à Khatchaturian et à cette pièce que j'avais jouée enfant. C'est une pièce qui est assez facile à jouer, donc les enfants la connaissent.
Ouais.
Et c'est une très belle pièce qui s'appelle Andantino. C'est la première pièce d'un volume que Khatchaturian, compositeur russe arménien, avait écrit pour les enfants. Et c'est magnifique. C'est une pièce très courte, 55 secondes, une minute.
Je vais vous dire, j'ignorais complètement qui il était. Je suis allé voir, il est né en 1903, il est mort en 1978. Et c'était un des compositeurs officiels de l'URSS. Et Gainsbourg piquait beaucoup de musique à des grands compositeurs.
Oui, Brahms, la troisième symphonie, la troisième étude de Chopin, notamment pour Jane Birkin et leur fille Charlotte. C'est incroyable, mais il l'assumait totalement. Et c'était un homme de grande culture et il trouvait que ça valait le coup de prendre ces grands thèmes classiques et de les transformer en chansons populaires. Et ça marchait très bien.
On parlait du piano. Vous dites que vos parents ne vous ont pas laissé le choix à Alexandre Tarot. Ils vous ont mis sur un piano quasiment de force à 4 ans, 4 ans et demi.
Oui, enfin, oui, ils m'ont mis à un piano et surtout ils m'ont demandé de continuer, de ne pas. Vous savez, quand on est enfant, on est paresseux, on aime bien le piano, mais au bout de 3 semaines, on a envie d'arrêter ou de faire autre chose.
C'était le sens de ma question.
Oui, c'est ça.
Parce que la doxa, la mentalité et l'éducation a changé entre votre jeunesse et aujourd'hui. C'est pas faire injure à votre âge que de le dire. Vous avez quel âge d'ailleurs ? Je vous ai pas demandé.
51.
C'est quand même très très jeune. Maintenant, la doxa recommande de laisser faire les enfants, de ne surtout pas les forcer. Vous en pensez quoi ?
Ben, je pense que les enfants le regrettent toute leur vie. Tous mes amis qui ont arrêté le piano après 1 ou 2 ans parce qu'ils voulaient faire autre chose, ils s'en mordent les doigts, si je puis dire, toute leur vie. Et je préfère des parents qui leur disent « Oui, c'est un peu compliqué, t'en fais, mais essaye, continue encore au moins 1 an. » Parce que le piano, c'est merveilleux, vous savez, à l'adolescence, à 12-13 ans, c'est un jardin secret, c'est un ami à qui on se confie. Ouais. Et le piano nous accompagne. Après,
ouais. Écoutez, il vous accompagne partout le piano, sauf chez vous. Vous n'avez pas de piano chez vous ?
J'ai pas de piano chez moi.
Pourquoi ce choix ?
Parce que quand j'avais un piano chez moi, j'étais noyé par lui et je travaillais mal, je préfère travailler dans d'autres lieux.
Et comme ça, vous séparez le travail de la maison.
Exactement.
Vous voyez, on a réussi à passer la gymnopédie. Alexandre Tarot, c'est dans cet album, Le Poète du Piano, triple album chez Erato, qui sort après-demain. Vous serez en concert les 4 et 5 novembre à Paris, à la Philharmonie de Paris. C'est à 18h30.
Au lieu de 20h30.
Voilà. Et avec quel programme ? Il y aura Satie ?
Premier soir, non mais peut-être en bis, si vous me le demandez. Le premier programme, c'est du Rachmaninov, Scarlatti, Ravel, piano seul. Deuxième programme, c'est avec orchestre et je joue 3 concertos de Bach, de Mozart et un compositeur contemporain qui s'appelle Oskar Strasnoy. Très, 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 une musique incroyable, un peu jazzy, assez violente et dont ce sera la première française.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Alexandre Tarot. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. On sera avec Justine Planchon, c'est la directrice des programmes de Troisième Œil. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté en 4, 5, 6 jours une nouvelle émission qui arrive demain en deuxième partie de soirée sur France 2. Ça s'appelle 6 à la maison. Et puis l'humoriste Arnaud de Samer pour son nouveau spectacle, 2 mariages et un enterrement, et non l'inverse. Juste après le flash, c'est Anne Roumanoff et sa bande, ça fait du bien. Je vous dis à demain.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.